J'étais avec une fille, j'avais rendez-vous avec une deuxième, mais ensuite je prévoyais déjà le rendez-vous avec la troisième. Et j'en étais arrivé à un tel point où me faire choper ou pas n'avait aucune importance. Et c'est ce qui m'a poussé dans les bras de tant de femmes, c'était de chaque fois de chercher soit la compagne qui allait régler tous mes problèmes, soit celle qui allait me faire oublier les problèmes que j'avais.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Paul, Lausannois de 50 ans, qui a souffert d'une dépendance affective et sexuelle pendant plus de 30 ans.
On peut dire que j'ai consommé les femmes comme on consomme de l'alcool, comme on consomme n'importe quelle drogue, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'augmentation. Ce n'est pas quelque chose qui vous obsède tous les jours. J'ai eu pourtant des indices, des amis à moi, bien intentionnés, ou des femmes ont quand même fait remarquer que je faisais peut-être un peu souffrir les gens, à ne pas s'attacher à eux, de passer facilement d'une relation à une autre. Donc j'ai multiplié les expériences. Mais je dirais que quand ces personnes m'en parlaient, j'avais une capacité à dire non, mais c'est pas si grave. Et puis, j'y tenais pas forcément beaucoup, c'était juste une aventure passagère. Et en fait, les aventures passagères se sont multipliées. Dans mon cas, on peut parler de plus d'une centaine. Et c'est seulement aujourd'hui où j'ai pu faire un peu une rétrospective de ma vie que je vois qu'il y a eu une consommation outrancière du sexe. Et pas forcément du sexe. Pour moi, je pense que ça a été plus que ça. Et je crois même que le sexe n'a été peut-être pas forcément la finalité. Je crois que j'avais besoin de compagnie, j'avais besoin de me sentir exister. Et c'est à travers les relations multiples que je pouvais engager, que je me sentais exister. Je me sentais bien que lorsque je pouvais conquérir une femme, surtout si c'était difficile, s'il y avait un challenge. Alors là, je trouvais ça encore plus excitant. Parce que je le voulais, alors ça devait se passer. C'est par la suite que j'ai compris que c'était une maladie, parce que c'est quelque chose de plus fort que soi, c'est quelque chose d'incontrôlable qui vient en vous et qui vous dit maintenant c'est ça, maintenant il faut que tu couches avec cette fille ou que tu la séduises, parce que ça n'a pas toujours été, ça passe pas toujours par le sexe. Ou alors le sexe c'est qu'une infime partie, il y a beaucoup plus riche. La mise en abîme, quand on va approcher la personne, quand on va lui suggérer qu'il pourrait se passer quelque chose, pour moi, ça a toujours été plus important que la fin en soi, qui est parfois d'ailleurs décevante. On couche avec quelqu'un, puis finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on s'était raconté. Et donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup fantasmé. Mais pour tout, pas seulement pour les relations, pour la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie dans sa tête.
Et concrètement, donc vous aviez une copine ou une femme régulière et puis à côté, vous aviez des aventures ?
C'était ça. J'ai toujours été... Je ne me souviens pas avoir été seul très longtemps. Je crois que je n'ai pas considéré que j'avais une relation anormale avec les femmes. Et puis peut-être que je suis d'une génération où on pense qu'un homme qui a plusieurs femmes, ce n'est pas si anormal. Peut-être même que dans les films ou dans la littérature, c'est même considéré comme étant quelque chose de plutôt bien. Il a sa femme, puis il a sa maîtresse à côté, c'est pas si grave.
Et puis comment vous vous en sortiez ? Est-ce que vous mentiez, par exemple, à votre compagne régulière, ou vous l'assumiez totalement ?
J'ai menti trois quarts de ma vie. Alors, souvent, c'était pas pour... J'allais dire, c'est pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que souvent, il ne se passait pas grand-chose, mais le mensonge était pour moi le moyen le plus facile. On n'a pas à s'expliquer, souvent s'expliquer, c'est passer du temps, et moi, je n'avais pas de temps à perdre. Donc le mensonge, c'était le plus court chemin. Donc oui, le mensonge, et quand on ment, on devient forcément un peu parano, parce qu'on se demande, est-ce qu'on a bien menti, est-ce qu'on a suffisamment menti. Donc ça m'a amené dans des situations complètement rocambolesques où j'étais avec une fille, j'avais rendez-vous avec une deuxième, mais ensuite je prévoyais déjà le rendez-vous avec la troisième. Donc il faut être très malin, ce que je ne suis pas forcément. Donc quand on ment mal, on se fait forcément choper, ce qui était mon cas. Mais c'était devenu aussi presque un jeu. C'est est-ce que je me ferai attraper ou pas? C'est qui est le plus malin? Et j'en étais arrivé à un tel point où me faire choper ou pas n'avait aucune importance. Quand l'addiction est à son maximum, le fait qu'on se fasse griller en train d'être avec téléphoner à une autre fille ou donner rendez-vous à une autre femme alors que vous êtes avec votre compagne, finalement vous vous dites bah si je perds tout c'est pas grave, il y en aura une autre. Et j'ai toujours fait cette analogie entre la femme qui suit avec le verre qui suit, parce qu'en fait le verre qui suit c'est toujours le suivant d'un verre qu'on a pris et on s'était déjà dit bah, c'est le dernier. Dans cette suite, en fait, c'est comme une fuite. Il y a toujours une personne qui en appelle une autre. Je me suis dit, c'est une manière de vivre. Je voyais pas du tout les conséquences quand j'étais comme ça. Et ça aurait pu continuer pour moi indéfiniment.
Est-ce que à un moment vous avez eu la gueule de bois? Est-ce que vous avez souffert de ça?
Terriblement. Je crois que je crois qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu des moments où où j'alignais toutes ces relations et j'étais au fond de moi heureux. Le bonheur est venu plus tard. Il y avait de l'excitation, c'est sûr. Il y avait du fun, il y avait tout ce que vous voulez. Mais je ne suis pas sûr que j'étais heureux. J'ai dû apprendre à perdre certaines choses. J'ai dû apprendre à perdre avant de trouver ce bonheur, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous et vous êtes là pour cette personne. Il n'y a pas une troisième personne qui est là en attente. Mais ça, j'ai mis peut-être 30 ans à le savoir. J'ai passé 30 ans à tromper les autres et à me tromper moi-même, finalement.
Et puis alors, le déclic, il est venu comment?
Le déclic, il est venu d'un trop-plein. C'est-à-dire que donc j'étais avec une femme depuis longtemps. Et elle me signifiait par de nombreux messages qu'elle avait compris mon jeu. Mais je continuais à multiplier les relations. Et jusqu'à ce qu'au jour, elle me menace de me virer, tout simplement. Et donc moi, quand elle m'a dit « si tu continues, je te fiche à la porte », j'ai dit « mais bien sûr, oui, mais je pensais que je pourrais toujours m'en sortir avec une pirouette ». Sauf que là, ça n'a pas été le cas. Je me suis vraiment retrouvé avec mes affaires à la porte du jour au lendemain. Donc là, il y a un gros point dans la figure, on se retrouve seul. On est là avec ses affaires dans un petit appartement. On se retrouve comme si j'étais un vieux célibataire qui n'avait jamais eu de vie avant. Et c'est très difficile. Donc là, c'était pour moi le début de la. Alors, c'est le début de la chute qui a duré encore plusieurs mois. C'est-à-dire que je pensais que j'étais au plus mal, mais le pire était encore à venir. Il m'a fallu peut-être 6 mois pour remettre un peu d'ordre dans mes pensées. J'ai été aidé. J'ai frappé la porte d'une association qui m'a aidé. C'est un groupe de personnes qui aident les gens qui ont des troubles affectifs et sexuels. Pour aller mieux, j'ai compris que je devais revisiter pas mal de mes comportements qui étaient ancrés en moi, je dirais, au niveau le plus primaire, le plus bas. C'est-à-dire qu'instinctivement, dès que je voyais une femme, je me disais, tiens, elle est jolie, est-ce qu'il y a une possibilité? De façon totalement compulsive, totalement transparente pour moi, à un point où je m'en rendais même plus compte. Donc c'est seulement quand j'ai pu discuter avec des personnes qui étaient déjà passées par là, qui avaient plusieurs années de sevrage, qui m'ont expliqué que voilà, ben, ils sont venus pour les mêmes raisons. Souvent, ils avaient perdu un travail, une femme, une famille. Dans mon cas, heureusement, j'ai toujours mon travail. Et puis, ma vie de famille, j'ai pu la reconstruire. Mais des personnes qui sont venues au même endroit et qui ont tout perdu. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais de la chance, car je n'avais pas tout perdu, et qu'il y avait surtout un moyen de récupérer. La solitude pour quelqu'un qui a passé sa vie entouré de personnes, d'amis, et de femmes, se retrouver seul, c'était pour moi très difficile. Et c'est justement parce que j'ai voulu fuir la douleur que je me réfugiais toujours dans une autre histoire. Et c'est pour moi, ça peut avoir l'air très très simple en apparence, mais c'est l'histoire d'une vie qu'on doit reconstruire et qu'on doit reformuler Et c'est cette reformulation qui m'a pris 6 ou 8 mois pour arriver à ce que je sois bien à l'idée d'être seul et que c'est ensuite que je peux être bien avec une autre personne. C'est la condition sine qua non, sinon c'est reparti pour des tromperies, on trouve des défauts à l'autre, on lui reproche tous les maux. Et c'est ce qui m'a poussé dans les bras de tant de femmes, c'était de chaque fois de chercher soit la compagne qui allait régler tous mes problèmes, soit celle qui allait me faire oublier les problèmes que j'avais.
Dans votre cas, vous avez pu reconstruire votre famille, donc reconquérir votre femme. Comment vous l'avez convaincue de vous faire confiance?
Ça a été long. Il a fallu faire beaucoup de, j'allais dire, preuves d'humilité et s'avouer déjà à soi qu'on a mal agi. Et quand en plus vous devez aller vers l'autre en lui disant ben, « j'ai mal agi, il faut me demander pardon », c'est très difficile. Ça a été pour moi. Alors ce qui m'a rassuré, c'est que je voyais que plus j'arrivais à m'excuser, plus c'était facile. Au début, je l'ai regretté. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour mener une vie normale, entre guillemets. Je pensais à l'époque qu'être avec qu'une seule femme, c'était ennuyeux. Et qu'il fallait, au contraire, multiplier les expériences pour avoir une expérience totale. Pour moi, la vie, c'était qu'une somme d'expériences. Il n'y a qu'en les multipliant qu'on arrivait à un résultat extraordinaire. Parce que moi, la vie ordinaire, je n'avais pas du tout envie. Mes collègues ou mes amis qui me disaient bah, « je rentre ce soir, je fais à manger pour ma femme, après on regarde un film et on va se coucher », pour moi, c'était la mort. Le plus difficile, donc, ça a été de se dire qu'il y avait une autre voie, une autre possibilité pour moi. J'ai dû donc me reprogrammer. Donc j'ai dû réapprendre ce que c'était d'être fidèle, d'abord à soi, puis ensuite à quelqu'un, qui avait des avantages innombrables que je n'avais pas vus. Ben, je crois que les premières joies, je les ai vraiment retrouvées en rentrant du travail, d'être seul et de ne pas avoir envie d'appeler quelqu'un, de ne pas regarder son téléphone en se disant ben, « tiens, j'ai envoyé un ou deux messages hier, est-ce qu'il y a une réponse ?» D'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et ne pas chercher à fuir justement ces sentiments ou ces émotions qui avant me faisaient peur. J'ai appris à écouter mon cœur, mon corps ou ma tête, me dire des choses. J'ai utilisé la méditation aussi, des exercices de méditation qui m'ont calmé. Avant, j'avais une sorte de terrible angoisse du vide parce que dans ce vide, toutes ces émotions pouvaient s'exprimer. Donc aujourd'hui, elles arrivent, je les regarde, je les contemple, puis elles partent ou elles restent, mais ça ne me pose plus les mêmes problèmes.
Et puis avec votre femme, est-ce que l'intimité a changé? Est-ce que votre relation a changé de nature?
J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas faire confiance. Je crois que c'était aussi une des raisons qui m'ont poussé dans autant de relations multiples, c'était que je ne pouvais pas donner ma confiance à une seule personne, donc j'ai multiplié les échanges possibles. J'ai découvert avec ce travail le don de faire confiance. C'est un don qui est magnifique, c'est qu'en plus, ensuite, en retour, on vous fait confiance. Et ça, il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre, mais une fois que c'était installé, je préfère aujourd'hui ma vie que celle que j'avais avant. Je ne pourrais pas ou jamais compter le temps perdu à rechercher une autre aventure. Et tout ce temps, je peux l'utiliser pour des choses que j'aime faire, tout simplement.
Est-ce qu'il y a des actes que vous avez faits que vous regrettez?
Ah, pas plus d'un. Plus d'un, oui, il y a des choses que je regrette amèrement parce que d'abord j'ai fait souffrir des gens. Il y a des femmes avec qui la relation a toujours été claire, c'est-à-dire que j'ai toujours dit je suis quelqu'un de passage. Et avec certaines personnes, c'était OK, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat tacite. C'était que pour un moment. Mais d'autres personnes à qui j'ai fait croire des choses. Donc j'ai menti en laissant croire qu'on pourrait être ensemble, que j'allais quitter ma copine du moment pour être avec. Donc ça, je sens et je sais que j'ai manipulé des gens en leur faisant miroiter des choses qui n'existaient pas. Parce que j'ai jamais cru une seule seconde que j'allais quitter la personne avec qui j'étais pour aller avec cette autre personne. Et puis il y a eu des conséquences plus encore plus néfaste pour les personnes, parce qu'il y en a qui sont tombées enceintes. Ce que je regrette surtout, c'est de ne pas avoir été là, c'est d'avoir été très lâche. Les choses que je regrette aussi, c'est effectivement d'avoir eu des relations avec des femmes avec une vertu limitée. Donc je peux dire que j'ai pris des risques aussi pour ma santé. Et bien sûr, par voie de conséquence, la santé de mes partenaires. Chose que aujourd'hui je referai jamais, mais c'est des choses que je regrette aussi.
Quand vous dites des femmes avec une vertu limitée, est-ce que c'est des prostituées ?
Par exemple.
Donc ça, c'était quand vous arriviez pas à séduire des femmes, tac, vous alliez voir des prostituées, ou comment ça se passait ?
Disons que c'est surtout cette forme d'addiction qui fait que cette émotion se produit en vous, il faut absolument l'assouvir. Et j'avais à ce moment besoin d'avoir une relation. Et une fois de plus, ce n'était pas forcément une relation sexuelle. Les relations tarifées, c'est des relations sexuelles, mais pas seulement. On rencontre quelqu'un, il y a des échanges, il y a une intrigue. Et pour moi, c'était déjà le début d'un roman. J'ai toujours eu de la peine à savoir si je vivais réellement. Je me posais des questions. Est-ce que je vis réellement? Est-ce que je suis un personnage de roman? Et quand vous rencontrez une femme, qu'elle soit prostituée ou pas, qu'elle soit une personne qui ait un métier connu et reconnu, il y a déjà une histoire. Et c'est ce que j'ai recherché, je pense.
Et puis du coup, est-ce que ça vous arrive d'être encore tenté par cet ancien mode de vie, ou jamais? Vous avez vraiment tourné la page et ça ne vous dit plus?
Il y a, comme dans toutes les addictions, des phénomènes de rechute où on se sent moins fort. Donc je peux le sentir. Je sais qu'à certains endroits, quand on revient dans des endroits où on est allé dans le passé, il peut se trouver que je me sens un petit peu titillé comme ça. Mais ça ne dure jamais très longtemps. C'est quelques secondes. Puis ensuite, on regarde, on se déroule le film jusqu'au bout. On voit là où ça nous entraînerait. On se dit, voilà. Et je crois que la guérison vous amène ce don de voir les conséquences. Quand j'étais malade, je ne voyais pas du tout les conséquences. Je ne voyais que les avantages, que le moment high. Mais la gueule de bois du lendemain, on ne l'imagine pas quand on est encore accro à l'alcool. Et pour moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vois une femme, je me dis juste qu'elle est jolie. Et puis c'est tout. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Depuis que je suis guéri, je vois les gens qui souffrent encore de cette maladie. Il y en a énormément. Alors le milieu du travail, il ne se passe pas un jour sans que je vois un collègue ou une collègue. Et là, je me dis, je crois que là, il va un peu plus loin que ce qu'il devrait. Et je dirais qu'avec tout ce qui s'est passé récemment sur MeToo, tout ce qu'on voit dans la presse, je pense que c'est d'abord mieux pour moi d'être guéri maintenant, parce que je pense que je serais totalement ciblé par ce genre de mouvement. Mais je vois qu'il y a des collègues qui n'ont toujours pas compris. Des collègues ou des amis qui se comportent effectivement exactement comme je me comportais avant, et c'est pour moi très facile de les repérer. On dit toujours que on reconnaît facilement les gens qui ont les mêmes addictions que vous, et pour moi c'est clair. Je vois les gens qui invitent des collègues à manger, mais en fait c'est juste parce qu'ils sont seuls, ils draguent ouvertement ou alors discrètement, mais ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Ou simplement de pouvoir d'être incapable d'aller manger à la CAF seul. J'étais toujours obligé d'être avec une personne, était 98% des cas, c'était une femme. Ça aurait dû être un signal d'alerte, comme quoi je ne pouvais pas manger seul, simplement comme plein de gens mangent seul à midi, c'est pas un problème, c'est pas un drame en soi. Et moi, c'était inimaginable. Je me suis dit, si on me voit manger seul, on va dire quoi ? Qu'il a raté sa vie, qu'il est trop nul pour que les gens viennent manger avec lui. Et si en plus on le voit avec une jolie femme, les gens vont se dire, mais il est très intéressant, ça va être un mec plutôt bien.
Vous avez plus l'impression que vous existez ?
Déjà, je dors mieux. Le sommeil est quelque chose qui me manquait avant, parce que vous pensez toujours à l'erreur que vous auriez pu commettre. J'imagine que tous les criminels, quels qu'ils soient, peuvent se reconnaître dans ce témoignage. Donc je dors mieux et j'ai aujourd'hui l'impression que ce que je fais a un sens. L'intensité des relations que j'ai eues dans le passé m'ont amené beaucoup de choses, sauf un sentiment de direction et d'unicité. J'allais dans toutes les directions. Aujourd'hui, je vis en me disant, ben voilà, ma vie a un sens, je fais telle et telle chose, je suis avec cette personne, et ça, c'est quelque chose qui grandit en plus. Donc aujourd'hui, je vis 1000 fois mieux qu'avant. Et je pense qu'au début de ma guérison, j'étais tenté de revenir de faire marche arrière, de me dire que non, finalement, la vie avant était mieux. Aujourd'hui, pas une seule seconde.